Bonjour tout le monde, bonjour Fabrice.
Bonjour Isabelle et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
C'est une jolie visite d'un coin majestueux de notre île que nous vous proposons aujourd'hui dans Sabianza, direction la terre des seigneurs, pays de forêts et de torrents, perles sauvages et cœur historique de la Corse du Sud. Je veux bien évidemment parler de l'Alta Rocca.
On dirait un très joli reportage touristique avec une voix off, Isabelle. C'est vrai qu'on va se rendre plus précisément dans le village de Lévi, où est implanté un très beau musée, le musée de l'Alta Rocca en l'occurrence, avec depuis peu, c'est exceptionnel dans ces jardins, la reconstitution d'un habitat de l'âge du bronze grandeur nature.
Quelle collection archéologique et préhistorique le musée héberge-t-il? Quels sont les vestiges les plus significatifs qu'il possède? Nous allons découvrir ensemble la vie quotidienne de cette micro-région durant les grandes périodes de l'histoire que sont le mésolithique, le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'Antiquité, mais aussi les époques modernes et contemporaines.
Et on est très bien accompagné pour en parler parce que celui qui va nous tendre la main et la voix pour nous dévoiler ces trésors n'est autre que le directeur du musée de l'Alta Rocca, Kevin Pechkilikini, qu'on est toujours ravis de recevoir à nos micros. On connaît sa pédagogie et sa précision. Tandis qu'en seconde partie, et c'est très intéressant aussi, on donnera la parole à Vincent Lascour. Il est directeur de l'association Calcofort. Il a convoqué sur le site de Lévis, en l'occurrence très près de ce musée, bien voilà tout son savoir-faire pour reconstruire un habitat, on le disait, vieux de 2000 ans avant Jésus-Christ.
Sabianza, l'invité.
Kevin Pechkilikini, bonjour et bienvenue à nos côtés.
Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir.
Bonjour Kevin, merci d'être avec nous avec une petite voix éraillée, mais bien présent.
Oui Fabrice, bonjour, une petite angine, j'espère que ça ne va pas trop nous gêner.
Non, a priori non, puisque vous êtes un amoureux d'histoire et que grâce à vous, nous allons visiter le musée que vous avez l'honneur de diriger depuis 3 ans maintenant. Vous êtes originaire de cette micro-région, Kevin, et d'Ajaccio également.
Oui, oui, je suis né à Ajaccio, hein, mais mes grands-parents étaient de Sainte-Lucie de Talane, donc bon, voilà, c'est un peu un retour au Tchépou, comme on dit.
Et la question qu'on se posait, et on le fait peu dans Sapiens, on devrait le faire plus d'ailleurs, Isabelle, je vous regarde en le disant, c'est d'avoir un petit peu l'essence de ce qui vous a amené à devenir voilà, historien, archéologue, spécialiste d'une période qui plus est l'âge du bronze. Kevin, ça a commencé dès le lycée, cette passion pour l'histoire et l'archéologie, ou ça a été plutôt à la fac que vous êtes spécialisé et que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine?
En fait, ça a commencé bien plus tôt. J'ai toujours été fasciné par ce qui se passe dans la terre. J'ai toujours aimé soulever les cailloux, aller creuser, voir ce qui s'y passait. Et c'est vraiment une passion qui est née quand j'avais 6 ou 7 ans. J'ai commencé à lire beaucoup. J'ai demandé à mes parents de m'abonner à ceci, à cela.
C'est bien,
et je suis devenu un collectionneur compulsif aussi de beaucoup de choses sur l'histoire en général et la préhistoire en particulier, notamment de la Corse. Et puis j'ai eu la chance après, à l'adolescence, de rentrer dans des associations de gens qui tournaient un petit peu en Corse. Donc on allait voir les sites, on allait voir les mines, on allait voir les églises. Enfin voilà, je me suis formé petit à petit au patrimoine comme ça et aussi au terrain corse alors que j'étais encore au collège hein, finalement.
C'est sympa quand on note comme ça que des passions d'enfance peuvent se développer et continuer à l'âge adulte par un métier. C'est toujours passionnant de l'entendre. Est-ce que justement, il y a un site qui vous avait marqué en termes de visite quand vous étiez petit, qui a pu déclencher ça, alors en Corse ou ailleurs? Vous vous rappelez d'une visite forte que vous avez pu faire?
Je me souviens notamment de la première fois que je suis allé à Philitose. Je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. J'en ai un souvenir encore très fort de la première fois que j'ai pu voir ces statues menhirs. Et puis un petit peu plus âgé, vers 10-11 ans, c'était ma première sortie à Koukourouts, et là c'était, il y avait pas que l'archéologie dans cette espèce de d'attrait qui est né en moi. Il y avait aussi l'ambiance hein. Vous connaissez le site, il y a cette forêt, il y a ce sentier, il y a une émotion qui se développe quand on visite le site de Koukourouts, et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti déjà tout petit et que j'essaie de retrouver maintenant quand j'y vais de façon un petit peu plus professionnelle.
Alors par la suite, vous avez étudié à Aix, en Sardaigne également, un retour aux sources, on l'a dit, avec dans la région de l'Alta Rocca, à ce musée que vous dirigez aujourd'hui et qui a une vocation archéologique et préhistorique, hein, sans doute due en partie à son fondateur, le préhistorien François de Lanfranchi.
Oui, oui, François de Lanfranchi, qui est originaire de Lévis, a commencé son activité archéologique dans les années 60, notamment sur le site de Koukourouts. Et très vite, il a emmagasiné une grande quantité de mobilier qui d'abord était conservé dans les sous-sols de la mairie. Et puis François Delenfant, qui étant un pédagogue né, il a voulu commencer à partager le savoir qu'il était en train de révéler. Et donc il a mis en scène un petit peu les collections archéologiques qui s'accumulaient. Il a commencé à mettre des cartels, à faire des affiches, des posters, à faire venir les gens. Et puis peu à peu, ce dépôt s'est transformé en musée départemental. Et puis, après, il y a eu des nouveaux locaux, c'est devenu un musée territorial. Et puis, voilà, 50 ans plus tard, je prends la tête de la structure et je succède à Jeannine Delenfranc, hein, la fille de François, qui a œuvré à bâtir de ses mains et à préserver aussi toutes les merveilles qui sont aujourd'hui conservées dans le musée.
Oui, mais avec aussi le bonheur d'avoir régulièrement des publications que vous proposez depuis le musée, avec beaucoup, beaucoup d'animation. Quand je dis d'animation, c'est pédagogique, instructif, scientifique, archéologique, évidemment. Donc, il y a un vrai dynamisme.
De nombreuses conférences, on annoncera le programme.
Autrefois, évidemment, mais aujourd'hui beaucoup aussi avec Kevin et ses équipes. On parlera d'actualité avec vous, justement, Kevin, parce que ça bouge beaucoup. Et avec des choses toujours passionnantes pour le grand public, aussi parfois très exigeantes, scientifiques. Et c'est bien cela aussi la vocation d'un musée tel que celui-ci. Si vous deviez, Kevin, pour ceux qui seraient à l'écoute et qui ne connaîtraient pas nécessairement le musée de l'Alta Rocca, nous en donner quelques pièces maîtresses, par exemple, et l'essence même de ce qu'on peut y rencontrer.
Bien sûr, alors on va surtout voir les collections qui sont issues des fouilles de François Delenfranc, qui un petit peu pour toutes les périodes de la préhistoire. Et donc la préhistoire corse, comme vous savez, débute il y a près de 10 000 ans, hein, avec la période mésolithique. Et parmi ce qu'on peut voir pour cette période au musée, nous avons bien sûr les restes humains de la dame de Bonifacio, hein, qui est une dame qui était assez lourdement handicapée et qui vivait sur le plateau bonifacien il y a près de 10 000 ans. On pourra observer aussi le fameux lapin rat, hein, le Prolagus sarde, qui était une espèce qui a disparu aujourd'hui, mais qui à l'époque devait être relativement fréquente et qui était donc largement consommée par ces premières populations insulaires. Alors en continuant dans le parcours, vous pourrez voir des vitrines qui conservent des vestiges du néolithique, hein, notamment la statuette d'Ainès, hein, qui est une représentation féminine. Et puis vous arriverez à l'âge du bronze, à l'âge du fer, période pour lesquelles on a beaucoup de poterie, beaucoup de parures, enfin voilà, tout un panel d'objets du quotidien, hein, de la fin de la préhistoire corse. Vous continuerez votre visite en arrivant dans un espace qui est dédié à l'art sacré, à la collection d'art religieux de la commune de Lévis, avec tout un tas de costumes liturgiques du début du XXe siècle. Et puis une pièce maîtresse, hein, qui est un Christ en ivoire de style florentin du XVIe siècle. Donc c'est vraiment une pièce exceptionnelle, hein, de type Renaissance, qui provient probablement des ateliers qui étaient dirigés par le grand artiste Jean Bologne, qui, comme son nom l'indique, était belge. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ou plutôt à partir de dans quelques mois ou quelques semaines, nous vous proposerons de continuer ce parcours en dehors du musée, en allant dans le jardin où nous avons réalisé donc une restitution de maison de l'âge du bronze dont je vais vous parler tout à l'heure.
Nous sommes aux côtés du directeur du musée de l'Alta Rocca et nous poursuivons avec lui cette visite en dehors des murs. Kevin Peschkilikini, vous restez avec nous.
All'ore più cruelle, bolida li abage, preferi gli umele a gioia considage. A San Manu Gaiuda, all'amore umano, neguna uscire sciuda, naspeti ueranu. A saltre cantilene, a esperanze mie, barattale bene contro so chi rinchie. Un'altra storia voli scri, un'altra storia, alle dorive voli vive, un'altra storia. Un'altra storia voli vive, un'altra storia, alle dorive voli scrive, un'altra storia. Più
infelice, voli da lì un sasso, un fa mai più nige, sotto luce lui manso. Aedo e cielotte, a so chi face male, lasci corre a notte, a vita di più vale. A star tre cantilene, a speranze mie, barattale bene contro so chi rinchie. Un'altra storia puni scrive, un'altra storia, alle dorive puni vive, un'altra storia. Un'altra storia puni vive, un'altra storia, alle dorive puni scrive, un'altra storia. Un'altra storia volevi, un'altra storia, alle dorive polivive, un'altra storia.
Un'altra storia avec le groupe I Messaggeri sur RCFM.
Sapienza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
Et nous accueillons aujourd'hui le directeur du musée de l'Alta Rocca, Kevin Pech-Kilikini. On s'intéresse dans cette deuxième partie en particulier à l'âge du bronze en Corse, Kevin.
Une période très intéressante, une période très complexe. Pour vous caler ça, l'âge du bronze, on est en gros sur le deuxième millénaire avant notre ère, hein, plus exactement entre moins 2002 et moins 800. Donc c'est une période qui dure un peu plus d'un millénaire et qui est caractérisée en Corse, notamment dans le sud, par d'importants développements monumentaux. Hein. Quand on pense à la préhistoire corse, on a tous des images en tête de sites, que ce soit des fortifications ou des statues menhirs. Et il se trouve que la plupart de ces sites ont été élevés, fréquentés et abandonnés lors de l'âge du bronze. Hein. Tous les sites ou la plupart des sites qui se visitent aujourd'hui sur l'île, que ce soit Koukourout, soit Loubizoudier, Kaour, Filitos, Aradjou, sont tous des sites qui datent de l'âge du bronze. Donc c'est une période assez, entre guillemets, spectaculaire, hein, on la voit dans le paysage. Elle existe aussi dans les légendes insulaires, il y en a beaucoup qui se rattachent à ces vieux châteaux, à ces vieilles stantare. Et donc moi, j'ai fait de cette période un petit peu ma spécialité, hein, au cours de mes études et puis après. Donc je travaille énormément par l'intermédiaire de fouilles ou par l'intermédiaire d'études de mobilier pour essayer de mieux comprendre ces sociétés de l'âge du bronze corse. Donc j'ai réalisé des fouilles sur quelques sites comme à Cucciurpula sur la commune de Serra di Scopamena, à Tappa sur la commune de Porto Vecchio et actuellement encore sur la commune de Solacaro sur le site de Filitos. Hein, on a repris les fouilles s'étaient arrêtées à la fin des années 70 et depuis 2021 on a la chance de pouvoir relancer un programme de recherche sur ce grand site qui reste, malgré sa célébrité, assez mal connu et qui offre au quotidien un lot d'informations qui était quasiment inespéré. Hein. Quand j'ai repris la fouille il y a 3 ans, j'espérais pas mettre au jour autant de documentation. Donc il y aura probablement à l'avenir des surprises scientifiques issues de l'exploitation du site de Filitos, hein, dont on pourra reparler notamment dans Sapienza, si vous êtes disponible.
Avec joie.
Oui, Kevin, ce qui est passionnant en vous ayant à nos micros, c'est qu'on peut avec vous aussi rentrer dans le quotidien de ces peuples qui vivaient à l'époque de l'âge du bronze en Corse. Alors c'est simple parce que vous allez nous les raconter en quelques minutes, mais évidemment c'est le fruit de toutes ces recherches laborieuses sur le terrain que vous et vos équipes et vos prédécesseurs avaient effectuées. Oui, si on est en Corse il y a 4000 ans de cela, on vit comment globalement ?
Alors, sans rentrer dans l'intérieur de la maison, non. Puisqu'on aura l'occasion...
Est-ce qu'on a des chasseurs-cueilleurs nomades? Voilà. Est-ce qu'on est déjà sédentaire? Qu'est-ce qu'on mange au quotidien? Parce que dans la tête des gens, 4000 ans, ça veut tout dire et rien dire parfois, lorsqu'on n'est pas un historien. Est-ce qu'on est un homme préhistorique au coin d'une grotte? Évidemment non. C'était juste pour se plonger dans ce quotidien de la Corse il y a 4000 ans, Kevin, avec vous.
Alors, la vie quotidienne à l'âge du bronze, elle se fait le plus souvent autour de l'habitat. L'habitat est constitué de ces petites forteresses qu'on appelle les castés, dans lesquelles sont les maisons. Et à cette époque, on est déjà sédentaire, agriculteur et producteur depuis près de 4000 ans. On a largement bénéficié des expériences néolithiques, le néolithique étant la période qui précède l'âge du bronze. Et donc l'économie, durant ce deuxième millénaire, elle est essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage. Alors pour l'agriculture, on a en premier lieu une exploitation des céréales, avec tout d'abord le blé, qui semble être l'espèce la plus cultivée. Et puis dans un deuxième temps, on voit arriver l'orge et le millet. Alors au niveau des espèces qui sont élevées, les animaux, on va retrouver la fameuse triade méditerranéenne, à savoir les bovins, les porcins et les ovicaprins, donc les vaches, les cochons, les chèvres et les moutons. Alors les vieux réflexes de chasse, de pêche et de cueillette, ils sont quand même là. Pour la chasse, il semble s'agir d'une activité, on va dire, annexe, peut-être considérée comme un loisir déjà à cette époque-là. On va chasser notamment le cerf et le sanglier. Et on va pratiquer aussi un piégeage qui a l'air d'être une activité quand même assez courante. Par exemple, on va pas dédaigner à l'âge du bronze manger une tortue d'Hermann, un hérisson, une belette, un loir, voilà, tout ce qui peut passer sous la main et qui a du sang chaud, on va pas y dédaigner, quoi. Et une autre part de l'alimentation de ces groupes, c'est ce qu'on appelle la balanophagie, c'est-à-dire la consommation des glands du chêne. Il faut savoir qu'on a en Corse un certain attrait, un certain goût pour les glands du chêne à l'âge du bronze. Donc ces glands, ils étaient ramassés, ils étaient torréfiés, un peu comme le café ou le cacao, et ils étaient réduits en poudre, et ensuite ils étaient consommés sous forme de farine. Donc on imagine que ça pouvait terminer en galette, et pourquoi pas même en tisane. Donc voilà un petit peu le cadre de vie, on va dire, alimentaire de ces populations-là, qui pratiquent également plusieurs formes d'artisanat. Comme le nom de la période l'indique, ces gens-là savent produire des outils métalliques en bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain. Alors pour le coup, le cuivre, il y en a en Corse, mais l'étain, il n'y en a pas. Donc ces gens-là, et notamment les plus puissants d'entre eux, était à même d'organiser et d'entretenir des réseaux d'approvisionnement à distance qui permettaient donc de fournir cette industrie des métaux.
Ça veut dire que si les populations étaient sédentarisées en groupe autour de leur domicile, elles échangeaient, elles commerçaient, elles se déplaçaient pour ces besoins aussi ?
Oui, complètement. Il y a tout un réseau de circulation qui existe à l'échelle de l'île. Et puis au-delà, on a probablement des sortes de marines marchandes, même si le mot est un peu fort, mais en tout cas des bateaux cargo qui se chargent d'approvisionner les différentes régions avec les produits et les ressources dont elles ont besoin, à la fois pour leur industrie et à la fois pour des goûts très particuliers. Par exemple, l'ambre qui provient de la Baltique à cette époque. De l'ambre baltique a été découverte en Corse, il n'y a pas de souci. C'est pas vraiment pour des besoins industriels, là, c'est plutôt pour des besoins de parure et de statut social. Donc probablement que c'est cette espèce de proto-commerce est diligentée par les puissants de l'époque, ceux qui se font représenter dans les statues minières, notamment, et pour assurer leur statut social et, en fait, pour épater la galerie, un petit peu, on peut dire.
Et c'est toujours passionnant là, quand on est dans la réalité d'un quotidien que vous nous faites vivre. Est-ce qu'on sait si ces groupes étaient nombreux, Kevin ? Évidemment, il y a des castelli qui ont été fouillés, peut-être pas tous, hein, il peut encore y avoir des surprises archéologiques à découvrir dans les années qui viennent, mais c'était des groupes très présents en Corse, dans pratiquement toute la Corse, ou au contraire, finalement, une Corse très peu habitée à cette époque de l'âge du bronze, et simplement quelques petits groupes humains de quelques dizaines de personnes à chaque fois, pour avoir un petit peu la notion du nombre de personnes qui étaient présentes sur notre île à cette époque, si c'est possible de le déterminer, évidemment.
C'est une question qui revient souvent. Ouais. Quand je raisonne à l'échelle des habitations, on va essayer de comprendre combien il y avait d'habitants dans la maison. Quand on raisonne à l'échelle d'un site, on va essayer de se demander quelle était la démographie, hein, de ce site. Malheureusement, ce sont des problématiques qui sont très difficiles à documenter, hein, parce que les sources sont extrêmement ténues. On est obligé de faire des estimations assez lâches à partir de l'occupation de l'espace, que ce soit dans les maisons ou dans les sites. Alors, on peut s'amuser à compter le nombre de maisons qui sont contemporaines sur un site, mais ça c'est très compliqué parce que déjà les sites ne sont pas fouillés entièrement. Ensuite, il peut aussi bien y avoir des maisons à l'intérieur que à l'extérieur du site. Qu'est-ce qu'un site finalement? Où est-ce que le site se termine? Et donc, toutes ces difficultés font qu'estimer la démographie corse à l'âge du bronze, c'est quelque chose de compliqué. Cependant, et justement, on a une actualité au musée de l'Alta Rocca qui tourne autour de ça, hein, puisque au mois de décembre, nous allons organiser une journée consacrée aux paléodémographies de la Corse, hein, au pluriel. On va essayer, avec différents chercheurs, historiens, archéologues, généalogistes, d'essayer de produire des chiffres et des estimations sur l'évolution de la population insulaire des origines à nos jours. Et c'est moi qui vais m'y coller, hein, pour l'âge du bronze. Et je peux peut-être vous donner mes chiffres. J'ai essayé de développer un modèle paléodémographique et j'arrive, pour l'âge du bronze, à une population d'environ 6 000 à 8 000 personnes pour la Corse. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Ce sont des extrapolations d'extrapolations. Mais ça fournit quand même une échelle de réflexion qui pourra, j'espère, être améliorée par la multiplication des fouilles, le développement des analyses génétiques et peut-être par la découverte de sites un petit peu plus caractéristiques. Je pense notamment à des nécropoles, hein, à des groupements de tombes qui permettraient de mieux comprendre l'espérance de vie, de mieux comprendre les liens familiaux, les structures de parenté. Donc c'est une question difficile, mais en même temps véritablement passionnante.
Avec un grand merci de nous avoir livré, en tout cas, on ne va pas dire en primeur, mais la primauté de cette recherche que vous êtes en train de faire, elle est intéressante parce que ça veut dire qu'il n'était pas 100 et qu'il n'était pas 100 000. Hein, voilà, vous nous donnez quand même
la
capacité d'avoir la main mise sur une échelle, et ça, c'est passionnant.
Merci Kevin Pechkilikin. On reste avec vous dans une troisième et dernière partie après ceci.
RCFM, Sabiens.
Son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit: pleure pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. Justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit: viens t'asseoir. viens t'asseoir. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir.
Faisons le plein de connaissances dans Sapiens sur RCFM.
Je me rends compte que la cabane du pêcheur, c'est pas pour rien que vous l'avez proposé cette
chanson.
Alors,
c'est pas tout à fait une cabane qu'on va visiter, mais presque.
Et j'imagine que la chanson est quand même un petit teasing de ce qui va se passer.
Eh oui, parce que nous allons pénétrer à l'intérieur d'une habitation que vous avez reconstituée. C'est un projet qui vous tient à cœur, bien évidemment, arrive au terme d'une fouille préventive que vous effectuez entre 2019 et 2020, Kevin Pech-Kilikini, puisque nous sommes avec le directeur du musée de l'Altaroc, qui a mené ces investigations en amont d'un projet immobilier, en fait.
Tout à fait, on arrive là vraiment à la fin du processus, hein, qu'on pourrait baptiser un petit peu de la fouille au musée.
C'est ça.
Alors, je vous explique le contexte. C'était qu'il y a 4 ans, presque 5 ans maintenant, nous avons réalisé une fouille préventive sur un site de la vallée du Rizzanese, sur la commune de Sartène, un site qui s'appelle Istantari di Ufrati Azzurra. Alors, c'est une fouille préventive, c'est-à-dire que le site allait être détruit, en fait, par un aménagement du territoire, en l'occurrence un lotissement. Et donc les archéologues sont intervenus pour, on va dire, sauvegarder la donnée scientifique avant de livrer le terrain aux aménageurs pour qu'ils puissent faire le lotissement et donc ne pas bloquer l'aménagement du territoire, parce qu'il faut bien aussi construire et on en est les premiers conscients.
Bien, vous en a pris, Kevin, parce qu'il révèle là un site singulier dans sa construction.
Oui, un site très singulier. Hein. Il s'agit d'un village qui est un village fortifié. Mais j'hésite un petit peu à le qualifier de casse-tête, comme je ferais pour Koukourouts, par exemple, parce que ce village fortifié l'est avec des aménagements qui sont tout à fait originaux à l'échelle de la Corse. On a tous l'habitude, quand on va sur ces sites toréens, de voir des gros murs avec des très grosses pierres, hein, de l'architecture cyclopéenne, des remparts, des maçonneries. Enfin, l'élément pierre est vraiment prégnant. Et à l'inverse, sur ce site du Rizzanese, les structures défensives sont réalisées dans un premier temps avec des palissades, hein, plusieurs niveaux de palissades qui sont juxtaposés. Et ça, c'était quelque chose de totalement nouveau, hein, dans le panorama de l'âge du bronze corse. Totalement nouveau, d'autant plus que ces structures sont relativement anciennes. Elles datent de la phase initiale, hein, de l'âge du bronze, qu'on appelle le bronze ancien. Et on est vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Alors, ces palissades, en plus, elles vont connaître une histoire un peu compliquée, puisque dans un deuxième temps, elles vont être complètement démantelées. Et à la place de ce système, on va construire un grand fossé en forme de V, hein, si vous voulez, un peu pointu vers le milieu en bas. Et en amont de ce fossé, on va établir une levée de terre qui, elle, va être maintenue en place probablement par des pieux en bois et probablement une sorte de palissade. Donc là encore, l'aménagement d'un fossé défensif autour d'un village installé sur une hauteur est un élément complètement nouveau. Et par la suite, on arrive maintenant vers le milieu de l'âge du bronze, on est vers 1500 avant notre ère. Les habitants du site, qui décidément changent souvent d'avis, vont reboucher le fossé, ils vont détruire la levée de terre et ils vont construire à la place un double rempart en pierre, beaucoup plus classique, des normes et des canons architecturaux en vogue à cette époque dans le sud de la Corse.
Un village donc qui propose des habitations au centre, plutôt classique, elle, sur un plan ovale avec une superficie assez stéréotypée.
Oui, en fait, autant les structures de fortification sont originales, autant les maisons qui sont présentes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des murs sont tout à fait classiques des normes du début de l'âge du bronze dans le sud de la Corse. Hein. Donc on a des maisons qui ont un plan elliptique ou ovale, si vous voulez, avec une ouverture sur un petit côté. Elles présentent des superficies qui gravitent autour de 50 mètres carrés. Et elles sont organisées en plusieurs pièces. En général, ce sont des trois pièces. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous arrivez dans un premier espace que nous appelons le vestibule, qui est donc une pièce qui bénéficie d'une lumière naturelle et d'une certaine ventilation. Hein. Il est fort possible que cet espace était dédié à des activités artisanales, même si elles restent assez mal documentées jusqu'ici. Après une cloison transversale, on pénètre dans la deuxième pièce, qui en général est la plus grande de la maison, hein, la pièce centrale, qui est l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui une cuisine-salon. Je dis ça parce qu'on a tous les instruments de cuisine qui sont conservés ici, avec en premier lieu le foyer. Alors le foyer, c'est un équipement qui est fabriqué en pierre et en terre cuite. Par terre, c'est une sorte de plaque de cuisson, si vous voulez, qui va accueillir le feu domestique. Ce feu domestique qui va être utilisé à dessein culinaire pour cuire, pour réchauffer, pour faire bouillir de l'eau, mais il va également fournir la seule ou quasiment la seule source de lumière à l'intérieur de la maison. Il va aussi fournir la chaleur, hein, nécessaire pour y vivre et pour y dormir quand il fait froid l'hiver. Et puis ce foyer, c'est tout aussi un petit peu le cœur symbolique, hein, de la maison. C'est là que les gens vont se réunir pour leur repas, c'est là qu'ils vont passer la veillée, c'est là que va se faire probablement la transmission familiale, l'apprentissage avec les plus jeunes et les plus anciens. Et je pense que c'est pas pour rien, d'ailleurs, que ce mot foyer devient parfois un synonyme, hein, du mot famille, tout simplement. Donc, ce foyer, il est au centre de cette pièce. Et il y a d'autres outils qui vont l'accompagner, comme des meules, hein, pour fabriquer de la farine, ou des mortiers, donc pour écraser, par exemple, les glands de chêne dont je vous parlais tout à l'heure. Et si on continue notre promenade, hein, dans cette cabane du pêcheur, on va dire. On arrive dans la troisième pièce au fond. C'est une pièce en forme d'abside, dans laquelle on va en général retrouver les récipients les plus gros, des équipements qui font véritablement penser à un espace de stockage, en fait.
Mais où est-ce qu'ils dorment alors?
Dans l'endroit, finalement,
ils dorment pas à l'époque.
Ils dorment pas.
C'est l'endroit le plus protégé de la maison.
Parce que là, c'est un T2 sans chambre.
Tu l'achètes pas. Vous nous avez fait une belle visite guidée de l'endroit, mais où est-ce qu'on dort?
Là, on fait que et bosser, oui, finalement.
Je n'ai pas parlé des chambres à coucher. Par contre, ne me demandez pas ensuite où était la salle de bain.
Non, surtout
alors,
pas. Surtout
les
pas.
Habitants dormaient très probablement dans une mezzanine. En fait, au-dessus de la pièce centrale et peut-être au-dessus de la troisième pièce, il y a une sorte d'étage sur poteau qui ressemble un peu à des combles, hein, puisque le toit est à double pente. Donc on a cet espace assez molletonné, je dois dire, probablement, construit tout en matériaux végétaux, qui devait accueillir la famille pour dormir durant la nuit. Et ce qui permettait de... Enfin, dormir à l'étage permettait de s'affranchir des problèmes d'humidité des sols. Et ça permettait aussi de profiter de la chaleur montante des foyers qui étaient probablement en train de s'éteindre tout doucement pendant la nuit.
Bon, du coup, vous nous avez davantage envie, donné envie d'investir dans cette maison parce que c'est 50 mètres carrés, loi carrés, mais enfin, il y a possibilité.
C'est quand même pentu, c'est sous les toits.
Oui, enfin, il y a quand même possibilité d'extension.
Loi carrés, à mon avis, on est à 20 tout au plus.
Côté mezzanine. Il y a quelque chose pour vous quitter, malheureusement, Kevin, parce que, avec vous, évidemment, on serait resté des heures à parler de cette période. Vous nous avez, et puis on va recevoir, bien sûr, votre partenaire dans quelques instants sur la question très technique, hein, de la reconstitution de cet habitat chez vous, dans le jardin de vos locaux, on va dire, au sens large. Vous avez parlé de transmission, de langue, forcément, d'apprentissage. On ne sait pas quelle langue parlaient ces premiers Corses au sens large également du terme, parce qu'évidemment, il n'y a sans doute pas d'écrits, oui, qui ont été ramenés jusqu'à nous, mais peut-on imaginer qu'on conversait déjà de manière très pratique, on parle aussi de proto-commerce, nous l'avait dit précisément, donc il fallait bien échanger par des mots. Est-ce qu'on a une idée de la manière dont le verbe résonnait à cette époque?
Alors malheureusement, comme vous l'avez dit, hein, y en a pas de source écrite et encore moins orale de ces gens-là. Cependant, quand on regarde les artisanats qui sont pratiqués à cette époque, on s'aperçoit d'une extrême complexité des chaînes opératoires, des projections mentales que ces gens étaient capables de faire, et probablement que le langage qu'ils pratiquaient était totalement adapté à ces schémas de pensée complexes et projetés. Et moi, je crois tout à fait à l'existence d'un langage complètement structuré, un peu tel que le nôtre aujourd'hui, dès cette époque-là, hein, ça ne fait aucun doute. Après, sur sa structure, on va dire culturelle et linguistique, finalement, la langue qui devait ressembler le plus, alors avec beaucoup de pincettes, hein, mais la langue presque contemporaine de ces gens-là, finalement, c'est la forme archaïque du latin qui était parlé dans le centre de l'Italie, donc juste à côté de nous, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, dont on connaît quelques bribes, hein, évidemment, notamment grâce aux auteurs du 5e siècle avant, les auteurs italiens et grecs. Et voilà, donc si j'avais une pièce à mettre pour essayer de retracer un petit peu le langage de nos lointains ancêtres, c'est vers les formes proto-latines que j'irais.
Nous sommes avec Kevin Pech-Kilikini, le directeur du musée de l'Alta Rocca.
Sapienza, chaque semaine sur RCFM.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Sur Avriguan Samora et dans Sabianza.
Sabianza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
On est toujours dans cette sublime région, l'Alta Rocca, avec Kevin Pechkilikini, le directeur du musée, et Vincent Lascour, le directeur de l'association Calcofort, à qui une mission capitale a été donnée, confiée, la reconstitution d'une habitation vieille de 2000 ans avant Jésus-Christ. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Ravi d'être à vos côtés. Quel est l'intérêt, Kevin, en quelques secondes, d'imaginer dans les jardins du musée ce type d'habitation ?
Selon moi, l'intérêt, il est double. Déjà, c'est d'expliquer aux gens comment vivaient ces populations de l'âge du bronze à travers l'immersion dans une structure du quotidien. Et ensuite, on va pouvoir accueillir les enfants dans cet espace, dans le cadre de la production d'ateliers. Et je pense que les enfants pourront encore mieux mémoriser comment allumer du feu comme au néolithique et comment fabriquer une poterie à l'âge du bronze s'ils sont dans un cadre aussi immersif.
Ça va forcément être passionnant pour eux, effectivement, de refaire ces gestes très, très anciens à vos côtés, aux côtés également de évidemment, l'association qui a monté ce projet. Vincent Lascour, vous nous faites vivre ce chantier que vous avez effectué en reproduisant des gestes plusieurs fois millénaires.
Oui, alors on a pas mal travaillé avec Kevin justement sur les hypothèses de restitution d'une architecture qui évidemment n'existe plus, hein, une fois la maison écroulé et ayant passé son temps. Après la fouille, on a évidemment que les vestiges enfouis dans le sol, donc il reste très peu d'éléments pour pouvoir imaginer une architecture en élévation. Et donc plusieurs hypothèses issues de la fouille ont été émises par Kevin, et donc on a essayé de trouver les solutions techniques pour pouvoir monter cette habitation. Donc le chantier, en fait, il s'est fait à peu près en 4 étapes différentes. La première, c'était le creusement des fondations, puisque donc c'est une maison elliptique, ovale. Donc, en gros, elle est formée de 2 tranchées parallèles, ovales elles-mêmes, dans lesquelles celle qui est interne, en fait, contient les fondations d'un mur, dont l'élévation est à peu près 1 mètre de hauteur, et celle qui est externe, donc parallèle, va soutenir en fait la charpente qui va venir donc se planter dans le sol, donc qui est une particularité de ce type de maison de l'âge du bronze dans la vallée du Sartenay. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, donc, a été la construction du mur lui-même. Donc il a nécessité à peu près 10 tonnes de blocs de granit, de galets de granit, hein, puisqu'on a dû respecter là aussi le type de matière première qui était disponible sur le site. Donc ce qui a posé quelques soucis techniques, puisque monter des murs avec des pierres rondes, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Surtout que la fouille avait montré qu'il n'y avait pas de liant pour pouvoir monter ce mur, hein, c'est-à-dire pas de ciment, pas de mortier, pas d'argile pour monter ces murs, donc on a dû trouver là aussi quelques solutions techniques. Et ensuite, l'essentiel a été de monter la charpente, puisque 90% de l'habitation est formée de bois et d'une couverture végétale pour recouvrir ce bois. Et donc voilà, donc après, ensuite ça a été donc la construction de la charpente en elle-même, et dans un quatrième temps la fixation de la couverture, donc dont le choix a été fait d'utiliser un roseau qu'on appelle de la sagne, donc même roseau que vous pouvez voir sur les maisons en Camargue par exemple.
Avec combien de temps finalement pour construire cette maison, si on devait rentrer dans les secrets du chantier qui, pour être précis, pourrait à peu près correspondre au temps que mettaient ces populations, vous pensez, à construire leur propre demeure, ou alors évidemment, comme la recherche devait en parallèle, j'imagine, de vos travaux, eh bien vous donner de la matière à travailler, hein, pour être techniquement fiable, et eh bien forcément ça a pris plus longtemps, vous, pour ce projet, que ce que ça pouvait prendre pour une population d'antan.
Oui, puis la difficulté, c'est qu'on n'était que 2 hein, pour pouvoir monter, fabriquer cette
ça
maison.
Ça change pas mal de choses. Oui.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un travail commun. Normalement, ce genre de travail, comme le mégalithisme, comme la construction d'une citadelle de l'âge du bronze, tout ça, ça se fait forcément en étant nombreux. Donc, ce qui n'est pas le cas là ici, puisqu'on n'était que 2, donc il faut évidemment diviser ce temps de travail par beaucoup moins, hein, puisque le fait d'être que 2, ça a limité les possibilités. Donc la construction, si on cumule l'intégralité des temps, c'est à peu près 34 jours pleins, hein, de construction, avec des moyens qui forcément et des savoir-faire que nous n'avons pas, puisque c'était la première fois qu'on construisait ce type de maison. Donc on imagine qu'avec plus de savoir-faire, on irait là aussi beaucoup plus vite. Mais voilà, on peut se dire qu'en gros, une bonne semaine, une bonne dizaine de jours à une dizaine de personnes, on peut tout à fait construire ce type de bâtiment. Alors, évidemment, en prenant en compte que tous les matériaux sont déjà sur le site, l'approvisionnement en matières premières est une part extrêmement importante de la réalisation de ce type de bâtiment.
Pour le directeur de l'association que vous êtes, Vincent Lascour, et qui participait régulièrement à pas mal d'événements sur le territoire et au-delà, j'imagine que être sollicité pour un tel chantier, ça doit être un sacré challenge.
Oui, bien sûr. Et puis c'est ça aussi qui est excitant dans le choix de monter ce type d'association de valorisation, c'est justement de pouvoir élargir nos horizons et puis sortir de nos zones de confort aussi. On met à disposition nos savoir-faire, mais c'est à nous aussi mais d'être suffisamment inventif pour pouvoir répondre à des demandes qui sont spécifiques, comme ça l'a été sur ce chantier-là. Oui.
Mais j'aurais une question justement dans cette foulée, à Kevin peut-être aussi, et à vous-même Vincent, lorsque vous avez, sous forme d'histoire vivante finalement, hein, de projet, d'histoire en train de se faire, monté cette demeure, est-ce que vous avez vu des écueils qui historiquement ou techniquement vous ont intéressé, archéologiquement également, et là je pense notamment à notre directeur.
Oui, évidemment, il y a des informations qui nous ont sauté aux yeux, hein, quand on était sur le chantier, et qui nous avaient véritablement échappé quand on a la tête dans le guidon dans les fouilles archéologiques. C'est par exemple, je vais prendre cet exemple parce qu'il est parlant, c'est celui de la ficelle. Je pense que là, on doit être à peu près à 3 km de ficelle utilisée pour rassembler les différents éléments des architectures. Voilà, ce sont des choses qui sont très discrètes, qui n'apparaissent pas lors des fouilles, mais il est vrai que quand on est confronté à la réalité du terrain, ce type d'info, il ressort tout de suite. Hein, donc on doit imaginer tout le travail qui est fait en amont, probablement pendant l'hiver, de réalisation de ces ficelles, qui sont probablement des ficelles de lin, et qui nécessitent un accès à une matière première assez conséquent, et un temps de réalisation qui l'est tout autant.
Et puis on doit échafauder peut-être des hypothèses sur les parties les moins bien conservées ou pas conservées du tout.
Complètement. Alors, évidemment, il y a une part d'imagination qui est inhérente à ce type de projet, mais on essaye aussi de s'inspirer des contextes voisins de l'âge du bronze de la Corse. Hein. Je pense à la Campanie, je pense à la Sardaigne, régions qui nous ont quand même assez largement inspirés pour compléter les blancs qu'on avait dans nos architectures. Par exemple, il y a un site du centre de la Sardaigne, de la Barbagia, qui nous a servi de modèle pour les élévations en liège, par exemple. Et puis pour les aspects de la charpente, on s'est inspiré du fameux site de Croce del Papa, qui est connu, très connu dans l'historiographie de l'âge du bronze, puisqu'il a été enseveli par le Vésuve à la fin de l'âge du bronze ancien. Et donc, il est particulièrement bien préservé et fourni de précieux renseignements sur les parties végétales.
Ce fut un plaisir de vous avoir tous les deux à nos micros aujourd'hui dans Sabiens, Kevin, Vincent. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Il y a plein de choses à venir côté associatif, Vincent Lascour ?
Oui, plein de projets comme d'habitude. On rebondit à chaque fois. Donc on a de toute façon une activité continue sur le site de Cucuruzzo Capule depuis maintenant 3 ans et qui se renouvelle d'année en année. Donc ça, on va dire que c'est le fond de roulement de l'association. Et puis donc parallèlement à ça, oui, d'autres projets qui tournent autour un petit peu de la statuaire. Là, on va travailler sur une stèle qui a été trouvée dans le Sartenay encore, une stèle du néolithique dont on va réaliser une réplique expérimentale. Donc ça va nous prendre un certain temps. Et puis là encore, quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque-là et qui va être pleine d'intérêt, pleine de rebondissements.
On suivra vos travaux de près. Passez une agréable journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et puis côté musée de l'Altaro, quand on l'a dit, beaucoup de conférences, beaucoup d'animations et d'événements, à commencer par ce samedi 13 avril, le vêtement féminin dans l'art contemporain et dans la collection du FRAC. Autre conférence portant sur les noms de famille des Pieve et d'Atala, Scopamena et Carbini, ce sera le 4 mai. Et le samedi suivant, la femme et son rôle dans les traditions magico-religieuses corses. Voilà pour quelques bribes du programme, mais vous le retrouverez complet évidemment sur le site du musée de l'Altaro. Nous étions en compagnie de son directeur aujourd'hui. Kevin, merci et bonne journée.
Merci à vous, à bientôt.
Merci beaucoup Kevin, à bientôt.
Doumé Mourad qui nous accompagnait à la réalisation technique aujourd'hui. On se retrouve lundi, Fabrice.
Avec grand plaisir, vous auriez aimé vivre à l'âge du bronze.
Je sais pas.
Aller piéger des prolagus, non ? Aller moudre quelques galettes de blé sur des losses chauffées, non ?
C'est bien vendu, mais il y a quand même cette loi caresse qui me pose un petit souci en termes d'espace.
L'appartement était trop petit.
Allez, on vous souhaite de passer une bonne fin de journée sur RCFM bien sûr et on vous dit à lundi dans la joie et la bonne humeur pour votre magazine de la connaissance et du savoir.